Lyon demain, planète pour tous.
Le festival entre Rhône et Saône débute demain vendredi et s'étalera sur 3 jours. De nombreux rendez-vous sont annoncés comme cette balade à la découverte des petits animaux qui peuplent nos rivières et nos plans d'eau. France Nature Environnement nous propose en effet de partir à la découverte des castors et ragondins. Souvent confondus, ces deux espèces présentent cependant de nombreuses différences. L'une est protégée, l'autre est considérée comme nuisible. Pour l'un comme pour l'autre, il s'agit d'apprendre à connaître leur mode de vie et à mieux cohabiter avec eux. Pour en savoir plus, notre journaliste Julien Kopfer-Schmidt est allé à la rencontre de Frédéric Rechrigon, la présidente de FNE Rhône.
On estime qu'on est à 3 ou 4 ou 5 foyers de castors sur Lyon, de Gerland à Saint-Clair en passant par le Bretillot à côté du parc de la Tête d'Or. Par contre, pour les ragondins, sur une population globale, je ne pourrais pas vous dire. L'endroit où il y en a le plus, c'est le bassin Ouagadougou à Confluence, et là, il y a certainement pas loin d'une trentaine d'individus rien que dans un bassin.
Est-ce que vous pourriez nous donner les principales différences entre les castors et les ragondins dans leur mode de vie ?
Leur mode de vie, c'est pas là qu'il y aura le plus de différences. Par contre, ils sont très différents morphologiquement, ils sont différents en termes de rythme de reproduction. Ils sont différents surtout en poids. Il faut imaginer qu'un castor, le castor européen, le castor du Rhône, peut aller jusqu'à 30 kilos. Donc c'est une grosse bête. Le ragondin est beaucoup plus petit, il a une queue de rat et pas du tout une queue plate. Il va difficilement aller au-delà de 400-500 grammes. C'est des bêtes très facilement reconnaissables. Le castor, on voit souvent que sa tête quand il nage, le ragondin, on voit son corps. Alors, par contre, les deux sont strictement végétariens. Ça veut dire qu'ils ne mangent que des plantes. C'est quand même des animaux qui sont peu nombreux. Ce dont on va parler, ça n'est pas du tout comme une population de rats ou d'écureuils. Ce sont des animaux qui sont peu nombreux. Végétariens, rongeurs, tous les deux. Les deux espèces. Sauf qu'il y en a une qui est franchement européenne et l'autre qui nous est arrivée d'Amérique, effectivement. Donc c'est une espèce quand même non autochtone, comme on dit.
Dans un premier temps, pour se focaliser sur les castors, selon vous, comment est-ce qu'ils pourraient contribuer à l'écosystème local, notamment dans la région lyonnaise ?
On dit souvent que le castor est un jardinier. Il entretient la ripisylve. La ripisylve, ça veut dire la forêt de rivage, donc les saules, les peupliers. Il faut imaginer qu'il mange de l'écorce et abat des arbres, surtout à la mauvaise saison, parce que sinon il se nourrit de plantes aquatiques. Donc chaque fois qu'il va couper un saule, un jeune saule à la base, eh ben, le saule ne meurt pas. Il repart en plusieurs petits troncs. Donc c'est lui qui entretient son jardin et qui va permettre, en termes d'écosystème, le maintien de cette ripisylve. Il ne nuit en rien aux berges puisqu'il fait un seul terrier hutte, donc il ne creuse pas des trous en permanence, comme on pourrait dire. Donc c'est un jardinier, un bûcheron et un jardinier.
Est-ce que vous pourriez nous donner éventuellement des initiatives ou des projets qui existent à Lyon pour protéger et pour cohabiter avec les castors ?
Des projets, à part l'éducation, il n'y a guère que ça, de rappeler que c'est une espèce strictement protégée, rappeler qu'elle n'a pas d'incidence négative sur la population ou sur les berges, et puis encore une fois apprendre, connaître, aimer de façon à avoir envie de protéger. La médiation, c'est ça, c'est faire découvrir dans cette idée de faire cohabiter les animaux sauvages et l'homme.
Selon vous, quels pourraient être les points et les impacts positifs ou négatifs, bien sûr, de la présence des castors sur l'environnement et sur nos infrastructures ? Humaine.
Il n'y a pas beaucoup de reproches à faire aux castors, en tous les cas en ville. Ça peut arriver que dans des zones plus naturelles, s'il n'a pas assez à manger dans une ripisylve, il puisse ponctuellement s'attaquer à des arbres fruitiers ou à une peupleraie productive. Et c'est vraiment la seule remarque qu'on pourrait faire dans certains cas très rares, parce que le castor européen, le castor du Rhône, ne fait pas de barrage. Dans certains cas, il peut faire des choses qui ressemblent à des barrages et qui peuvent faire des micro-inondations sur des prairies ou des champs cultivés qui seraient très près de l'eau. Mais c'est vraiment extrêmement ponctuel. Mais ça peut arriver. On ne peut pas dire que ça n'arrive pas.
Effectivement, vous venez de nous expliquer assez globalement le mode de fonctionnement et le mode de vie du castor. Vous nous avez aussi expliqué que les castors et les ragondins pouvaient connaître des similitudes dans leur façon d'être. Est-ce que, pour le coup, vous pourriez nous décrire le comportement et les habitudes des ragondins et comment peuvent-ils différer avec ceux des castors?
Le castor a une reproduction qui est minime. En général, ils font 2 jeunes par an et ils restent éventuellement avec les jeunes de l'année précédente. Donc, ça fait une famille. C'est l'équivalent d'une famille. Et ils seront 6. Et je vous dis peut-être 3-4 Saint-Hériers sur Lyon. Les ragondins sont susceptibles de se reproduire beaucoup plus vite. C'est là que, en termes de médiation, on dit il ne faut pas nourrir les ragondins. Les gamins ou même parfois les adultes adorent donner du pain dans un endroit où il y a des ragondins. Bon ben ça, faut pas faire ça. C'est quand même une espèce qui n'a pas spécialement sa place dans l'écosystème. Il est illusoire d'imaginer qu'on peut les éradiquer. Par contre, il ne faut pas les favoriser non plus. Le comportement, c'est surtout la reproduction qui va avoir des incidences et puis l'éventuel de transmission de maladies par le biais des chiens ou en direct, qui est vrai et avéré sur le ragondin et qui ne l'est pas sur le castor. Autant on rappelle que le castor est une espèce protégée, ça n'est pas le cas du ragondin, et on pousse quand même les gens à ne pas les favoriser, ce qui est très différent de souhaiter leur éradication, parce qu'on n'y croit pas, il est trop bien installé. Il faut se rappeler que c'est les hommes hein, qui sont à l'origine de la présence des ragondins. Si on s'en était pas mêlé, il n'y en aurait pas. Et donc maintenant, il faut cohabiter avec lui, mais surtout pas le favoriser. Et puis ne pas chercher à les caresser, ou, etc. Des choses comme ça. Mais sinon, ils sont nageurs tous les deux. Ils ont besoin de la berge tous les deux et de végétaux tous les deux. Donc c'est des modes de vie quand même assez proches.
Ils sont souvent d'ailleurs perçus comme des nuisibles, notamment parce qu'on le rappelle qu'ils sont aussi vecteurs de maladies telles que la leptospirose. Mmh. Est-ce que vous pouvez expliquer comment la FNE notamment aborde cette perception?
Les ragondins sont là. On ne va pas les éradiquer parce que ça pose aussi des problèmes. Vous vous rappelez, il y a quelques années, ça avait soulevé des difficultés. Leur chasse hein, à l'arc sur le bassin justement dont je vous ai parlé à Confluence. Donc, maîtrisons les populations. Ça, je crois qu'il y a des études en ce moment à la ville de Lyon dont je n'ai pas spécialement connaissance, mais plutôt pour maîtriser la population. Et d'autre part, on apprend aux gens à reconnaître l'un de l'autre, parce que si on veut tuer un ragondin alors que c'est un castor, c'est quand même rudement embêtant. Et on apprend aux gens les gestes à ne pas faire. Je crois qu'on est encore une fois dans cette attitude de médiation, de pragmatisme et d'éducation, ce qui nous paraît la bonne attitude vis-à-vis du vivant, mieux les connaître pour aller plus loin dans la cohabitation.
Et pour terminer, pour aller dans votre sens, effectivement vous venez de parler des efforts de sensibilisation qu'il peut y avoir sur l'éducation et la mise en danger des ragondins, mais quels sont les moyens mis en œuvre pour informer notamment le public lyonnais sur les dangers que peuvent présenter les ragondins?
Alors justement, je vais vous parler du festival Entre Rhône et Saône. C'est notre initiative justement d'évoquer ces différences et d'évoquer ce qu'il faut faire. Et sur le bassin de Ouagadougou, il y a quand même un grand panneau explicatif sur ce qu'est le ragondin et les risques et les choses à ne pas faire.
Ce week-end se tiendra le festival Entre Rhône et Saône. Selon vous, quels sont les principaux enjeux pour le public lyonnais notamment, de cet événement?
Mélanger la nature et la culture, les enjeux de l'environnement souvent considérés comme anxiogènes, avec des temps de plaisir, de joie, de partage. Donc c'est aller vers une écologie et une découverte qui soit basée sur le plaisir et sur le fait de comprendre que la présence de nos rivières et de nos fleuves fait partie intégrante de notre vision du monde, nos cartes postales, nos timbres, nos histoires, nos légendes, nos poèmes. Tout ça sont imprégnés de nature et c'est cette réconciliation, encore une fois, qui nous paraît importante. Et puis, je dirais, mettre un volet positif et joyeux à la compréhension du monde et des difficultés qui nous attendent. Il faut y aller dans la joie, la curiosité et la joie. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire à notre tout petit niveau, avec aussi plein d'autres associations et puis les acteurs culturels qui vont faire plein de choses. Donc je pense que ce sera une belle fête.
Partez sur les traces de ces castors et ragondins et découvrez ces animaux qui vivent au bord de l'eau, si près de chez nous. Rendez-vous samedi à 10h à l'arrêt de tram T1, halte Tony Garnier, pour ensuite aller explorer le parc des Berges et le parc de Gerland. Cet événement est gratuit, ouvert à toutes et tous, accessible à partir de 7 ans, mais uniquement sur inscription.